France Inter.
France Inter, il est 19h. Et 19h, c'est l'heure de votre journal. Éric Delvaux, bonsoir.
Bonsoir Thomas et bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, Bruno Retailleau s'impose largement comme le nouveau patron du Parti Les Républicains. Il recueille 74,3% des voix contre seulement 25,7% pour son rival Laurent Wauquiez. Nous serons en direct du siège, des différents sièges des deux candidats et nous verrons comment cette large victoire de Bruno Retailleau redessine les futures alliances des Républicains pour la présidentielle de 2027. Guerre et paix, version Netanyahou. Israël a lancé cet après-midi son offensive terrestre d'envergure dans la bande de Gaza, quelques heures seulement après une déclaration israélienne ouvrant la voie pour la première fois à un accord avec le Hamas, incluant une fin des combats. Nous essaierons d'y voir clair en direct de Jérusalem dans un instant. Attention, si vous devez prendre l'avion à Orly, 40% des vols sont annulés jusqu'à nouvel ordre à cause d'une panne du contrôle aérien. Une rencontre cet après-midi à Rome entre Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance. Leur dernière rencontre à la Maison Blanche fin février avait tourné au vinaigre. Et puis, nous serons à Cannes pour la projection aujourd'hui en compétition du thriller brésilien L'Agent Secret. Et notre envoyé spécial Alexis Demeyer a adoré. Le temps de demain, lundi, Céline Dacosta. Attention aux orages qui pourraient bien revenir.
Oui, orages sur le sud-ouest, ils seront potentiellement forts et on va évidemment les surveiller.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Les adhérents, les Républicains, ont donc élu Bruno Retailleau pour présider leur parti, préférant le ministre de l'Intérieur au patron des députés de droite républicaine, Laurent Wauquiez. 74,3% pour Bruno Retailleau, c'est un joli score. 25,7% pour Laurent Wauquiez. On va voir dans un instant les conséquences politiques de cette large victoire de Bruno Retailleau. On va d'abord au QG du Parti Les Républicains à Paris. Bonsoir Timur Öztürk.
Bonsoir à tous.
Avec donc, on l'imagine, la satisfaction, peut-être même la joie des partisans de Bruno Retailleau.
Oui, c'est une victoire écrasante pour Bruno Retailleau qui a été accueilli ici au siège du parti par les applaudissements et les cris de joie de quelques dizaines de militants rassemblés dans l'attente des résultats. Même l'équipe de campagne de Bruno Retailleau, confiante dans la victoire, ne prédisait pas une telle avance pour le ministre de l'Intérieur ces derniers jours. Élection sans appel qui ne laisse place à aucune contestation, aucune réclamation et qui installe solidement Bruno Retailleau à la tête de la droite. Elle le renforce également au ministère de l'Intérieur qu'il ne compte pas quitter face à François Bayrou et Emmanuel Macron. Les résultats ont été donnés il y a une trentaine de minutes par Annie Genevard qui préside la haute autorité du parti. Sur place, le directeur de campagne de Bruno Retailleau, Othmane Nasrou, éphémère ministre du gouvernement Barnier, a été lui aussi acclamé par les soutiens du ministre de l'Intérieur, qui a lui prévu de s'exprimer à la télévision à 20h avant de venir ici au siège, puis de fêter la victoire avec son équipe de campagne dans une brasserie à proximité.
Timur Öztürk, en direct du QG de Bruno Retailleau avec les moyens techniques de Alexandre Abergel. À l'instant, François Bayrou adresse ses félicitations à Bruno Retailleau. Et bonsoir Gilles Richard.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes historien spécialiste des droites, président de la Société française d'histoire politique, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Un œil sur la différence de voix entre les deux candidats, 74,3% pour Retailleau, 25,7% seulement pour Laurent Wauquiez. Est-ce que ça confère à Bruno Retailleau finalement une grande légitimité, les mains libres désormais pour diriger le parti ?
Oui, à l'évidence. Et ça va peut-être poser un problème à Laurent Wauquiez pour garder la présidence du groupe.
Et est-ce que ça exclut d'ailleurs Laurent Wauquiez de la future présidentielle de 2027?
Oui, ça c'est encore difficile de le dire, mais c'est difficile de prévoir l'avenir. Il peut se passer beaucoup de choses en 2 ans, mais il est probable que là, cela va être un gros handicap pour lui. Oui.
Et pour Bruno Retailleau, c'est un peu la stratégie Sarkozy qui se met en place, à la fois ministre de l'Intérieur et chef du parti. Est-ce que ça le désigne donc naturellement candidat pour la présidentielle?
Oui, très probablement. Il est peu probable que LR on rejoue le scénario des primaires ouvertes. Voilà. Donc, même si un certain nombre de candidats le demandent, à commencer par Laurent Wauquiez.
Sur le fond des grands dossiers, il n'y a pas de grande différence entre les deux hommes. Là où ils divergent, c'est à propos des futures alliances des LR.
Oui, il n'y a pas de différence. Il y a une différence tout de même importante, c'est que, et c'est ça sûrement qui a fait la victoire de Bruno Retailleau, c'est que Bruno Retailleau est constant depuis le début de son engagement politique. Hein. C'est un homme qui appartient à la famille nationaliste, tendance catholique traditionnaliste, une nuance monarchiste, voilà. Il a coché toutes les cases, alors que, et il n'a pas dévié de cela, alors que Laurent Wauquiez a beaucoup dévié, changé de ligne selon les moments et par opportunisme. Je pense que les adhérents ont été sensibles à cette différence.
Et est-ce que l'arrivée de Bruno Retailleau à la tête des LR annonce un rapprochement avec le centre droit comme le parti Horizon d'Édouard Philippe ?
Oui, très probablement. Les choses sont déjà d'ailleurs engagées, hein, à ce qui se dit, du moins. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir d'ici à 2027. Donc, faire des prévisions très fiables, voilà.
Enfin, il y a tout de même quelques indices. François Bayrou, qui immédiatement adresse ses félicitations à Bruno Retailleau, ce n'est pas complètement anodin.
Bien sûr, naturellement. Mais, comment dire, on est pris dans la vie politique, on est pris par les événements au jour le jour, mais il faut après mesurer comment les choses se passent. Il peut se produire des quantités d'événements en deux ans qui brouilleront les cartes. Donc, les prévisions sont difficiles. Il est vrai que pour l'heure, Bruno Retailleau a de bonnes chances.
Et voilà. Durant la campagne, Laurent Wauquiez a reproché à Bruno Retailleau une dilution DLR dans la Macronie. Est-ce que cette critique est fondée ?
Ah bah ça, je ne suis pas Laurent Wauquiez. C'est une alliance, c'est une alliance qui est derrière François Bayrou, une alliance un peu large et qui pose la question effectivement de l'alliance des macronistes avec une partie au moins de la famille nationaliste.
Voilà. Merci bien.
Et la chose s'est ouverte depuis que Marine Le Pen est en difficulté.
Voilà. Merci beaucoup Gilles Richard, historien spécialiste des droites. Nous partons au QG de Laurent Wauquiez, c'est au Puy-en-Velay. Laurent Wauquiez, vous savez, c'est l'homme qui, durant la campagne, a privilégié les fédérations locales plutôt que le parisianisme. Mathilde Imberti, vous êtes sur place en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un peu la soupe à la grimace donc ce soir dans le camp Wauquiez.
Oui, effectivement, et les militants sont en train d'écouter Laurent Wauquiez qui a débuté son discours il y a 5-6 minutes. Il effectivement est en train de rassurer ses militants. Laurent Wauquiez vient de finir son discours. Il a dit qu'il avait appelé Bruno Retailleau pour le féliciter de sa victoire. Il a vanté le rassemblement à droite, un vrai projet d'alternance. Il a dit qu'il nous faut un vrai projet d'alternance, ne pas se diluer dans le macronisme. Il faut faire sauter le verrou de l'impuissance. La droite doit préparer un projet de rupture. Elle doit avancer des idées fortes, quitte à déplaire, il faut juguler, l'immigration et le communautarisme. Voilà en quelques mots ce qu'a dit Laurent Wauquiez, hein, ce qu'il avait assumé durant toute sa campagne. Et effectivement, à nos côtés, sur cette terrasse qui donne sur la vieille ville du Puy-en-Velay, eh bien, des militants très déçus, oui. Des élus régionaux très déçus également, puisque le score est assez bas, moins de 26%. Effectivement, la défaite est très lourde et elle est injuste, disent les soutiens de Laurent Wauquiez ici.
Bruno Retailleau, donc, qui s'impose largement comme le nouveau patron du parti Les Républicains. Merci Mathilde Imberti en direct du Puy-en-Velay. Les députés resteront-ils travailler à l'Assemblée nationale en juillet ? La rumeur court depuis plusieurs semaines alors que la session ordinaire doit s'arrêter en principe lundi 30 juin. Eh bien François Bayrou pourrait bien décider d'une session extraordinaire du Parlement, peut-être 15 jours en juillet et puis 15 jours en septembre. C'est la confidence du ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, qui était l'invité de France Inter à la mi-journée.
France Inter, Éric Delvaux.
Israël a lancé cet après-midi son offensive terrestre d'envergure dans la bande de Gaza depuis jeudi. Israël a intensifié ses bombardements au prix de dizaines de morts parmi les Gazaouis, en prévision justement de cette incursion terrestre qui a donc débuté cet après-midi. Or, Quelques heures avant l'offensive, Benjamin Netanyahou disait ce matin s'il se disait ouvert à un accord avec le Hamas qui inclurait la fin des combats. On va essayer d'y voir clair dans tout cela. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
En direct de Jérusalem, RFI pour France Inter. Concernant d'abord la vaste incursion terrestre qui a débuté dans le milieu de l'après-midi, quels sont les objectifs de guerre ?
Pression militaire, négociations sous le feu, Benjamin Netanyahou et son gouvernement font tout pour brouiller les pistes. Alors à ce stade, Eric, des colonnes de tanks pénètrent dans la bande de Gaza au nord et au sud. L'armée déploie 5 divisions à Gaza. C'est une offensive d'envergure, une nouvelle phase des combats, selon le porte-parole de l'armée, le général Defrin. Israël entend accroître et étendre son contrôle opérationnel dans la bande de Gaza, tout en divisant le territoire et en déplaçant la population, dit-il. Le porte-parole en arabe de l'armée israélienne ordonne l'évacuation des Gazaouis dans plusieurs secteurs de l'enclave palestinienne. Alors cette intervention a été précédée, vous l'avez dit, par une semaine de frappes aériennes intensives. Le cabinet de sécurité israélien est réuni en ce moment. Le débat est très agité. L'extrême droite refuse tout arrêt des combats. Le chef d'état-major israélien, le général Eyal Zamir, affirme, lui, que l'armée va faire preuve de souplesse pour permettre un éventuel accord qui permettrait la libération d'otages.
Mais justement, comment comprendre dans ces conditions la déclaration ce matin de Benjamin Netanyahou qui se disait ouvert désormais à un accord qui inclurait la fin des combats et en même temps il lance son incursion terrestre ?
Oui, alors il y a d'abord une information qui vient de tomber. Un haut responsable du Hamas a déclaré à la chaîne CNN en arabe que l'organisation avait accepté de libérer entre 7 et 9 otages israéliens en échange d'un cessez-le-feu de 60 jours et de la libération de 300 prisonniers palestiniens. C'est en fait plus ou moins le plan Witkoff, c'est ce qu'Israël souhaite. Le responsable a souligné que la libération des otages est conditionnée à un retrait des forces israéliennes. Mais auparavant, donc, Benjamin Netanyahou a lâché du lest. Le résultat est la reprise à Doha des négociations avec le Hamas sans condition préalable et ce communiqué de son bureau sur une éventuelle fin des combats à Gaza. Les médias en Israël sont unanimes. L'administration américaine perd patience.
Michel Paul, en direct de Jérusalem. Rome à présent. Rome côté pile ce matin, avec la première messe solennelle d'inauguration de Léon XIV, en présence de chefs d'État étrangers. Et Rome côté face, cet après-midi, avec une séquence diplomatique sur l'Ukraine. Le pape a reçu Volodymyr Zelensky, une Ukraine martyrisée, avait dit Léon XIV un peu plus tôt lors de son homélie. Et puis Volodymyr Zelensky a rencontré, toujours à Rome, le vice-président américain, ce même J.D. Vance qui l'avait humilié à la Maison-Blanche lors de leur première rencontre avec Donald Trump dans le bureau ovale. Isabelle Labéry, vous êtes en direct de Kiev, bonsoir. L'échange a duré une demi-heure et c'est, semble-t-il, un peu mieux passé cette fois.
Oui, bien loin de l'atmosphère oppressante et confinée du bureau ovale fin février. Ils se sont retrouvés tout sourire sur une terrasse ouverte, entourée de pelouses et de cyprès dans la résidence de l'ambassadeur américain. Et si J.D. Vance n'a pas encore commenté cette rencontre, Volodymyr Zelensky évoque de son côté une bonne réunion au cours de laquelle les deux hommes ont convenu de maintenir la pression sur la Russie. Sur ce point, le président ukrainien et le vice-président américain sont en phase. Avant toute chose, il faut un cessez-le-feu, ce que Donald Trump compte bien redire demain lors du coup de fil qu'il doit passer à Vladimir Poutine, alors que Moscou a mené cette nuit sa plus vaste attaque de drones sur l'Ukraine depuis 2022. Volodymyr Zelensky, qui connaît les exigences maximalistes de la Russie, a aussi voulu s'assurer auprès du vice-président que Donald Trump, obsédé par l'idée d'arracher un accord, n'était pas prêt à trop de concessions face aux locataires du Kremlin. L'entretien du jour aura en tout cas permis de dépasser les tensions d'hier avec un président ukrainien vêtu d'une chemise noire, toujours pas de costume donc, mais cette fois, J.D. Vance n'a fait aucune remarque.
Isabelle Labéry, notre envoyée spéciale en direct d'Ukraine. En Roumanie, un ancien hooligan espère devenir ce soir le nouveau président du pays, George Simion, 38 ans, anti-vax, partisan de l'union avec la Moldavie. Il est parvenu en quelques années à être le chef de file de l'extrême droite roumaine en lissant son image sulfureuse. Les résultats sont attendus dans la soirée et à l'instant le gouvernement roumain dénonce les marques d'une ingérence russe. C'est le motif qui avait fait annuler un premier scrutin présidentiel en Roumanie il y a 6 mois. 40% des vols supprimés à l'aéroport d'Orly depuis le milieu de l'après-midi et jusqu'à nouvel ordre en raison d'une panne du contrôle aérien. Valentin Dunat, vous êtes sur place à Paris-Orly, bonsoir.
Bonsoir.
Les équipes techniques de la DGAC sont mobilisées pour établir le trafic et c'est un peu la pagaille ce soir parmi les passagers.
Oui, il y a des centaines de personnes venues du monde entier, les yeux rivés sur les écrans annonçant les vols annulés ou retardés. C'est le cas de Paola, Argentine.
Yes, it's a mess.
Elle décrit la pagaille, elle ne sait pas si son vol pour Rome est maintenu. Personne ne m'a rien expliqué, dit-elle. J'ai demandé à des policiers, ils ne m'ont rien dit. Il y a pourtant ici et là quelques panneaux d'affichage qui indique en français et en anglais, je cite, qu'il y a une panne des dispositifs de contrôle de la navigation aérienne. Panne qu'a découvert Charles et son fils en arrivant à l'aéroport.
Bon, ça y est, on devait aller à Nice et puis le vol est annulé, voilà. On ne sait rien d'autre.
C'est quelle compagnie ?
EasyJet.
Qu'est-ce qu'on vous a dit ici ?
Pour l'instant, non, ils nous ont rien dit du tout parce qu'il y a la queue, il y a 300 personnes, donc on n'a pas été.
On n'a même pas pu se renseigner, il y avait beaucoup trop de monde devant.
Nous, on arrive ici, on se fait déposer, puis maintenant, on ne sait plus comment faire. On a obligé de racheter des billets, quoi.
D'autant que, pour l'instant, la DGAC indique que l'origine de ce dysfonctionnement n'a pas été identifiée. On ne sait pas non plus combien de temps cette situation va durer.
Valentin Dunat à Paris-Orly. L'an dernier, cet aéroport a vu passer à Orly plus de 33 millions de passagers. C'est la moitié de la fréquentation de Paris-Charles de Gaulle. Et pour ne rien arranger, attention, demain, si vous devez prendre un taxi, ils ont prévu une nouvelle fois de manifester un peu partout en France contre un projet de nouvelle tarification imposée par l'assurance maladie sur les transports de malades, et ça concerne particulièrement les chauffeurs conventionnés. Ce sera demain à Versailles, le rendez-vous annuel de l'attractivité française, 8e édition de Choose France, avec tapis rouge pour des centaines de patrons venus du monde entier, 200 Chiefs Executive Officers, en français des PDG. Cette année, la Corée du Sud et les pays du Golfe seront particulièrement représentés. D'ailleurs, une poignée d'entre eux s'entretiendra en tête-à-tête avec Emmanuel Macron, qui a précisé d'ailleurs qu'un nouveau record d'investissement était atteint cette année, 20 milliards d'euros, qui s'ajoute aux 15 milliards l'an dernier, 13 milliards 2023 et seulement 7 milliards en 2022, Claire Chaudière.
Oui, et plusieurs sources laissent entendre que les équipes ont notamment travaillé sur un projet d'implantation d'une grosse usine de recyclage de textiles, secteur d'innovation, ou encore sur des annonces d'ampleur dans le domaine des infrastructures de tourisme. On devrait en savoir plus très tôt demain matin. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'Emmanuel Macron rencontrera ce lundi en tête-à-tête à Versailles Stella Li, à la tête du groupe automobile chinois BYD, qui vient d'annoncer justement l'ouverture d'un gigantesque site en Hongrie, mais aussi la direction de l'influent fonds saoudien Qiddiya, tout ça avant de participer à une table ronde sur l'approvisionnement en métaux stratégiques. La France résiste donc sur ce terrain de l'attractivité, voilà le message martelé par l'exécutif, et cela malgré ce contexte international qui s'est durci avec une offensive américaine sur le terrain des investissements qui porte déjà bien ses fruits. L'Élysée qui met en avant ses 150 000 emplois industriels recréés depuis 2017, mais qui, à vrai dire, botte plutôt en touche lorsqu'il s'agit de compter le nombre d'emplois spécifiquement générés via cet événement de Choose France.
Claire Chaudière. Il y aura du beau monde ce soir sur les marches cannoises. Wes Anderson, Scarlett Johansson, Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg ou encore Benicio del Toro pour la projection en compétition de The Phoenician Shame. Et un autre film a été présenté en compétition ce dimanche. C'est un thriller brésilien intitulé L'Agent Secret. Et notre envoyé spécial au Festival de Cannes, Alexis de Meyer, en est ressorti totalement emballé.
Nous sommes dans la ville brésilienne de Recife à la fin des années 70. Marcelo, interprété par le génial Wagner Moura, le Pablo Escobar de la série Narcos, doit vivre sous une fausse identité pour échapper à des tueurs à gages. Ce film de traque permet au réalisateur Kleber Mendonça Filho d'évoquer les traumatisantes décennies de dictature au Brésil.
Je dirais que c'est l'histoire de quelqu'un qui n'a absolument rien fait de mal, mais qui devient quand même une cible. C'est une situation un peu plus banale dans les régimes fascistes ou sous des gouvernements qui bafouent les valeurs de la démocratie. Au Brésil, on a connu ça pendant la dictature militaire, mais malheureusement, c'est aussi quelque chose de très actuel.
Si le scénario parvient à nous tenir en haleine pendant 2h40, c'est peut-être la mise en scène qui est ici la plus remarquable. Ce thriller à la sauce 70s multiplie les séquences magistrales. Kleber Mendonça Filho.
J'étais habité par la peur de tomber dans le piège du film d'époque un peu littéral, donc je me suis entouré d'un formidable directeur artistique et d'une géniale chef opérationnelle. opératrice. Et j'ai aussi creusé dans mes souvenirs de l'année 1977 parce que j'avais 9 ans à ce moment-là, et je pense que la perception d'une époque vaut parfois plus qu'une reconstitution ultra réaliste.
Et vu l'accueil que les festivaliers viennent de réserver à l'agent secret, on se dit que le jury de Juliette Binoche serait bien inspiré de lui réserver une place de choix au palmarès.
Alexis Demeyer, l'un de Demeyer, l'un de nos envoyés spéciaux au Festival de Cannes. Je vous rappelle qu'à l'instant, Bruno Retailleau s'est imposé et largement comme le nouveau patron du Parti Les Républicains. Il recueille 74,3% des voix contre 25,7% seulement à son rival Laurent Wauquiez, qui reconnaît ce soir sa défaite et appelle la droite à ne pas se diluer, dit-il, dans le macronisme. Le temps.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors, avant de parler de demain, la soirée d'abord, elle sera calme avant le retour des orages demain.
Oui, effectivement, parce qu'une perturbation va se mettre en place la nuit prochaine et on retrouvera dès le matin sur le sud de la Garonne des averses déjà orageuses. Elles seront fréquentes et marquées, elles gagneront toute la Nouvelle-Aquitaine et puis s'étendront l'après-midi à l'ouest de l'Occitanie et de l'Auvergne. On parle d'orages localement forts, je vous le disais, avec des pluies soutenues, des chutes de grêle, une activité électrique importante et de fortes rafales de vent. Toutes les conditions sont réunies pour une vigilance et ça, on verra ça demain matin avec Marie-Pierre. Sur le reste du pays, ce sera plus calme avec du soleil surtout sur la moitié nord. Le reste de la moitié sud deviendra nuageux au fil des heures à l'approche de la perturbation qui se décalera vers l'est mardi. On pourrait quand même déjà avoir quelques coups de tonnerre sur les Alpes demain après-midi.
Et pour les températures demain ?
Alors, les minimales seront parfois encore un petit peu fraîches au lever du jour. La moyenne ira de 4 à 14 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 15 à 20 degrés au bord de la Manche. 21 à 26 degrés ailleurs, avec des pointes à 27-28 encore pour le sud-ouest.
C'était Céline Dacosta.